pour chasser la bestiole qui trottinait et couinait non loin de ses oreilles. Ne pas dormir, se redit-il. Surtout ne pas fermer les yeux. Ne pas dormir, ou alors ces saloperies de rats me croiront mort et commenceront à me bouffer. Ils adorent la viande, c'est pour ça qu'ils sont si gras. Faut dire qu'elle ne leur manque pas. Ne pas dormir, tenir, m'accrocher. Revenir à la pêche aux souvenirs, au temps de paix quand je pouvais dormir. Dormir, dormir. Mercredi 20 décembre 1916, ferme des Combettes, 22h15. C'est vrai qu'on était tous transis en entendant ces tocsins qui se répondaient de paroisse en paroisse, pensa Marthe en posant une bûche de chêne dans le foyer et en attisant le feu. Mais il faut bien se souvenir aussi que depuis quelques jours, on s'attendait au pire. On devinait que tout était possible. D'abord à cause de l'assassinat de ce pauvre homme dont j'ai perdu le nom, ce presque roi de la Hongrie, je crois. Ça, c'était déjà un mauvais signe. Ensuite, à cause de ce rappel des classes qui n'avait pas trompé Jean. Et surtout, quand on a appris le samedi à midi que Jaurès lui aussi avait été tué la veille au soir. Jean ne l'aimait pas beaucoup, cet homme. Il disait que c'était un monsieur de la ville qui défendait toujours les ouvriers et jamais les paysans. « Il a beau jeu de les faire mettre en grève, » disait-il. Ça ne change pas son salaire à lui. Et en plus, la grève, c'est un système de feignants. D'ailleurs, si Jaurès ne s'intéresse pas du tout à nous, c'est parce qu'il a compris que les paysans ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Les bêtes ne nous le pardonneraient pas. Et en plus, on perdrait nos récoltes. Et puis, il est contre la guerre. Ça, il n'a pas tort. Il faut être fou pour la vouloir. Mais il ne prend pas du tout le bon moyen pour l'empêcher. Tiens. Tu te souviens de cette salope de truie qui ne supportait pas de voir les enfants? Elle les chargeait dès qu'elle les apercevait et les aurait tués si on l'avait laissé faire. Elle voulait la guerre. Elle ne pensait qu'à ça. Et nous aurait éventré Louise et Albert si elle avait pu. Eh bien, le Guillaume, c'est pareil que cette truie. Il veut nous étriper. À savoir pourquoi. Et Jaurès, pour l'empêcher de mordre, tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut que tout le monde se mette en grève chez nous et chez les Allemands. Il n'a rien compris, cette andouille de beau parleur. Tout ce qu'il faut avec le Guillaume et ceux qui, chez lui, pensent pareil, c'est faire ce que j'ai fait avec cette pute de truie, les assommer et les saigner. Tout le reste, c'est rien que des discours de politiciens. Et les discours, ça n'a jamais arrêté les guerres. Jamais. Non, Jean ne l'aimait pas beaucoup, Jaurès. Mais quand même, quand on a appris qu'il était mort, ça nous a fait un coup. C'est le facteur, le vieux père Massard, qui nous l'a annoncé en nous apportant le journal vers midi. On rentrait de la moisson et on allait manger la soupe. Il était bien malheureux, notre facteur. Il pleurait quasiment, parce que lui, il est du parti de Jaurès. « Il n'y avait que lui qui pouvait nous sauver », a-t-il expliqué en buvant le coup de vin qu'on lui offre toujours quand on est là à l'heure de son passage. « Maintenant, » a-t-il ajouté, « c'est sûr qu'on va à la guerre. » Parce qu'on ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est voulu tout ça. Sûr que c'est un Allemand payé par le Kaiser qui l'a tué, notre Jaurès. Il l'a fait assassiner parce que c'était le seul qui pouvait sauver la paix.
« Vous voulez faire Chabrol avec nous ?» lui avait proposé Jean, qui voulait qu'on mange vite pour retourner au travail.
« Non, merci mon petit, il faut que je continue ma tournée. Et puis, tout ça, ça me coupe l'appétit. Parce que c'est sûr qu'on va gagner, et très vite même. » Mais malgré ça, c'est toujours mauvais la guerre, toujours. Moi, je garde pas souvenir de l'autre, j'étais trop jeune. Et puis ici, à Costeblanc, ça n'a pas trop gêné le monde. Mais mon père qui était là-haut, je ne sais où dans l'armée de Bazaine, m'a toujours dit que c'était affreux.
« Vous êtes de quelle classe ?» lui a demandé Jean en lui resservant un verre de vin.
« De la 83, j'ai fait 5 ans d'armée à l'époque. Mais maintenant, ils me rappelleront plus. » À mon âge, je suis rayé des cadres. Et toi, tu es de laquelle?
De la 2.
Alors là, mon pauvre.
Oui, comme vous dites.
On va à la guerre, on ne peut pas y couper.
Il a vidé son verre et il est parti. On a su qu'il avait raison en entendant le tocsin le soir même. La guerre était là. Mais ça n'a pas empêché Jean de continuer à moissonner. Ça semble si loin tout ça. Et pourtant je m'en souviens comme si c'était hier.
Tu ne vas pas au village ?
Demanda de nouveau la mère de Jean.
Moi, à ta place, j'y serais déjà.
Marthe avait toujours détesté la façon dont sa belle-mère s'adressait à son fils. Certes, elle avait pour excuse de l'avoir élevé seul, puisque suite à un mauvais chaud et froid aussitôt tombé sur la poitrine, le père de Jean l'avait laissé veuve, alors que leur fils unique venait juste d'atteindre ses 2 ans. Farouchement renfermée dans son veuvage et son malheur, Octavine, alors âgée de 22 ans, avait pris en main non seulement l'éducation de son fils, mais aussi la destinée de la ferme des Condettes. Aidée par sa mère, Aurélienne, elle aussi veuve depuis 5 ans, Octavine s'était battue bec et ongles comme un homme pour faire rendre leur maximum aux 7 hectares que comptait alors la ferme. Elle avait réussi. À la majorité de Jean, alors qu'il lui restait encore 2 ans d'armée avant la fin de son service, la ferme des Combettes, sans être la plus belle ni surtout la plus grande de la commune, n'en était pas moins une solide assurance, sinon de richesse, du moins d'aisance pour son propriétaire, Jean en l'occurrence, puisque 6 des 7 hectares lui venaient de son père. Mais tous les sacrifices et l'énorme travail fourni par sa mère avaient très vite poussé celle-ci vers un autoritarisme sans faille. À tel point que dans le pays, et même en foire de Brive ou de Turenne, nombre de gens s'amusaient à dire dans son dos « Ce n'est pas de la mère Octavine qu'il faut parler, c'est du père Octave. Il ne lui manque plus que la moustache pour qu'on s'y trompe. » C'était très méchant, car elle était suffisamment plaisante pour attirer l'œil. D'ailleurs, beaucoup de ses propos émanaient d'hommes dont on pouvait supposer qu'ils avaient vu rejeter sans appel leurs avances, eussent-elles été honnêtes, c'est-à-dire en vue du mariage. Octavine, au nom de ce qu'elle estimait être son devoir envers son fils, avait toujours refusé de rompre son veuvage. Et si certaines mauvaises langues, surtout féminines, assuraient que, sans pour autant convoler, elle meublait très volontiers et très souvent sa solitude dans les bras de quelques secrets et solides galants, nul n'avait jamais pu étayer ces perfides allégations. Une seule chose était certaine, elle était aussi autoritaire que robuste à la tâche, et le fait qu'elle soit accorte et bien faite ne prouvait pas pour autant qu'un ou plusieurs quelconques vénards aient jamais profité de ses charmes. C'était d'ailleurs peut-être à cause de ce manque d'amour que son caractère au fil des ans était devenu plus rude et piquant qu'un buisson d'épines noires. Aussi, quelle n'avait été sa fureur lorsque Jean, seulement âgé de 18 ans, lui avait annoncé que Marthe serait un jour sa femme, et qu'il entendait d'ores et déjà la fréquenter officiellement.
« Mais elle n'a pas le moindre bien !»
avait hurlé Octavine.
« Elle n'a même pas de dot. Rien, pas un sou. D'ailleurs, comment le pourrait-elle avec un père métayé sur les 5 plus misérables hectares de la commune? Tu épouseras la fille Latreille. J'en ai déjà parlé à son père, il est d'accord. » Elle au moins a sa dot assurée, elle est foncière, elle aura des terres dans sa corbeille de mariage, et des louis aussi.
C'est un sac d'os, et elle est plus bête qu'une dinde qui a trouvé un napoléon de 20 francs et qui l'avale,
avait ricané Jean, qui en prenant de l'âge et quelque ombre de moustache, n'entendait plus se faire dicter sa conduite par qui que ce soit.
Tu épouseras Julie Latreille. Elle est fille unique et elle aura un jour la ferme du Mordalou, pour elle seule. 10 hectares, avec de beaux noyers et une grande truffière. Je m'en fous. Je ne veux pas plus de cette bique que de ces hectares. Les biens me suffisent. J'épouserai Marthe, un fois c'est tout, et on ne discute plus. »
Il avait tenu parole 5 ans plus tard. Mais sa mère ne lui avait jamais pardonné ce qu'elle jugeait comme une rébellion inadmissible, et elle n'avait pas assisté à son mariage. Quant à Marthe, elle l'avait méprisée d'emblée, ne lui adressant la parole que pour lui lancer quelques ordres. Jean était très vite intervenu en rappelant, avec toute la fermeté dont il était capable, que Marthe était sa femme, qu'il ne tolérerait pas qu'on ne la traitât pas comme telle.
qu'il ne fallait donc pas la confondre avec une domestique et qu'il entendait ne pas avoir à répéter cette mise au point.